Bonjour mesdames, messieurs, merci de nous accueillir chez vous pour cette édition du Monde aujourd'hui présentée par Nanit Talani. En tête de nos actualités, au Mali, l'évêché de la région de Mopti fait état d'une attaque meurtrière qui a fait 7 victimes. La CEDEAO met en place une transition jusqu'en 2025, laissant ainsi la porte ouverte pour les 3 pays de l'AES. Les négociations de paix entre la RDC et le Rwanda se heurtent à une impasse diplomatique. Washington écarte la menace d'espionnage étranger liée aux drones ou appareils volants sur le ciel américain. Qui, en Côte d'Ivoire, prendra le relais de Ouattara, grève des étudiants au Gabon, que cachent les 6000 voix en colère contre l'ANBG.
2 ans, je ne perçois pas ma bourse. Je suis venue au mois de septembre. On m'a fait comprendre que non, je ne peux plus faire la demande de bourse et que mon compte est bloqué. Je n'arrive pas à m'en sortir.
Des reportages à suivre dans nos dossiers du jour. En économie, le Tchad vise la présidence de la BAD. On n'oublie pas le sport basketball Ferroviaire qui est sacré champion de la Ligue féminine africaine à Dakar. Tout de suite, le journal. Human Rights Watch accuse les FSR et les milices alliées au Soudan d'avoir commis des violences sexuelles généralisées dans le sud de ce pays d'Afrique de l'Est, ravagé par plus d'un an et demi de guerre entre 2 généraux rivaux. Dans un rapport publié ce lundi, l'Organisation de défense des droits de l'homme affirme avoir documenté des dizaines de cas impliquant des femmes et des fillettes âgées de 7 à 50 ans, victimes de violences sexuelles, notamment de viols collectifs et d'esclavage sexuel dans le sud cordofan, déchiré par le conflit. L'organisation qualifie ces violences de graves violations du droit humanitaire, exhortant l'ONU et l'Union africaine à agir de toute urgence pour aider les survivantes, protéger les autres femmes et filles et garantir la justice pour ces crimes odieux. 38 personnes ont été tuées par ailleurs dans une attaque de drones menée samedi soir par des paramilitaires dans la vaste région du Darfour, dans l'ouest du Soudan, selon un nouveau bilan publié hier par des militants pro-démocratie. Au moins 7 villageois ont été tués hier dans une attaque terroriste menée dans le centre du Mali avec des dégâts matériels importants, a appris l'AFP auprès de l'évêché de la zone et d'une organisation de la société civile locale. L'attaque terroriste du village de Ségué, dans la région de Mopti, a tué un parent d'un membre du clergé local et 6 autres hommes avec beaucoup de dégâts matériels, a indiqué l'évêché de Mopti dans un communiqué signé par son secrétaire, l'abbé Daniel Camille Togo. Le mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde du Cercle de Bonkas, une organisation de la société civile, parle de 9 morts. Les autorités n'ont pas encore confirmé ces bilans. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se sont réunis hier pour un sommet ordinaire à Abuja, la capitale nigériane, avec à l'ordre du jour les questions sécuritaires et le départ du Mali, du Niger et du Burkina de l'organisation. Mouhamadou Oumfa nous en dit plus.
L'organisation ouest-africaine a décidé de mettre en place une période de transition qui va durer jusqu'au 29 juillet 2025 afin de maintenir les portes de la CEDEAO ouvertes aux 3 pays, a déclaré Omar Touré, président de la commission de la CEDEAO. Selon le règlement, ces 3 pays vont cesser officiellement d'être membres de la CEDEAO à partir du 29 janvier 2025, a précisé M. Touré. 2 jours avant le sommet, les régimes militaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont réaffirmé leur décision irréversible de quitter la CEDEAO, affirmant que cette organisation est instrumentalisée par la France. Le départ de ces 3 pays qui forment l'Alliance des États du Sahel pourrait avoir des implications économiques et politiques importantes, avec notamment la question de la libre circulation des personnes et des biens dans la région où les groupes djihadistes gagnent du terrain. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a affirmé la semaine dernière qu'il faisait des progrès dans les négociations avec les 3 pays, estimant qu'il n'y a aucune raison pour qu'ils ne maintiennent pas leurs relations avec la CEDEAO compte tenu de la situation sécuritaire.
La réunion des présidents de la RDC et du Rwanda, prévue dimanche à Luanda, a été annulée, effaçant tout espoir d'un accord dans l'immédiat pour rétablir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Plus d'infos avec Rosine Munezero.
Les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame devaient se rencontrer dimanche pour un sommet organisé par le chef d'État angolais João Lourenço, médiateur désigné de l'Union africaine dans le conflit entre Kigali et Kinshasa. Déjà samedi, une réunion des ministres des Affaires étrangères des deux pays à Luanda sur les conditions de l'accord s'est soldée par un échec. Il y a une impasse car les Rwandais ont posé comme préalable à la signature d'un accord que la RDC mène un dialogue direct avec le M23, avait affirmé Giscard Koussema, porte-parole de la présidence congolaise. Selon Kigali, Kinshasa avait donné son accord de principe, mais dans le cadre d'une autre initiative de résolution de crise sous médiation kényane, centrée sur la question des groupes armés présents dans l'est de la RDC. Mais la RDC réfute cette information. Sur le terrain, des combats ont été signalés dimanche dans la région. Une demi-douzaine de cessez-le-feu et des trêves ont déjà été conclus, puis ont été violés dans l'est de la RDC.
L'ONU va convoquer un comité technique d'experts libyens pour tenter de résoudre les questions litigieuses et mettre le pays sur la voie des élections nationales tant attendues, a déclaré hier dimanche le chef par intérim de la mission de l'ONU en Libye. Malgré un gouvernement d'union nationale soutenu par l'ONU et dirigé par le Premier ministre Abdulhamid Abdelbaba, qui a perdu le soutien du Parlement, M. Gbeba insiste sur la tenue d'élections avant de céder le pouvoir. La mission des Nations Unies poursuivra également ses efforts pour unifier les institutions militaires et de sécurité et promouvoir la réconciliation nationale.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le gouvernement israélien a approuvé hier un projet du Premier ministre Benjamin Netanyahou visant à doubler la population du Golan syrien occupé et annexé par Israël. Davantage avec Jean-Roger Bion.
Le gouvernement a approuvé à l'unanimité le projet du Premier ministre Netanyahou de développement démographique des localités du Golan et de la ville de Katrin pour une somme de 40 millions de shekels, soit 10,6 millions d'euros selon le communiqué. À la lumière de la guerre du nouveau front en Syrie et de la volonté de doubler la population du Golan, il s'agit d'une décision qui renforce les localités du Golan et l'État d'Israël, ajoute le communiqué. Monsieur Netanyahou a également souligné que son pays ne souhaitait pas entrer en conflit avec la Syrie une semaine après avoir ordonné à ses troupes de s'emparer de la zone tampon contrôlée par l'ONU, séparant les deux pays sur le plateau du Golan. Environ 30 000 citoyens israéliens vivent dans 34 localités du Golan, annexées par Israël, auxquelles s'ajoutent 23 000 druzes, une communauté dont la religion est issue de l'islam, qui se revendique pour la plupart des Syriens, tout en ayant le statut de résident en Israël. Israël a conquis une partie du Golan dans le sud-ouest de la Syrie lors de la guerre de 1967 avant d'annexer ce territoire en 1981. Seuls les États-Unis, sous l'administration de Donald Trump, ont reconnu cette annexion en 2019.
Les drones et appareils volants observés dans le ciel dans le nord-est des États-Unis et qui causent l'inquiétude d'une partie des Américains ne représentent pas de menace étrangère, a réitéré dimanche le ministre de la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas. Les précisions d'Eric Manirakiza.
La polémique a enflé ces derniers jours autour de la multiplication de signalements de drones ou d'appareils volants non identifiés par des habitants des régions de New York ou du New Jersey, sur laquelle les autorités nationales sont accusées de ne pas fournir de réponses suffisantes. Il n'y a pas de doute sur le fait que les gens voient des drones, a convenu sur le plateau d'ABC hier matin le ministre de la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas. Il s'agit de drones ou d'aéronefs pilotés qui sont pris pour des drones par erreur, a-t-il ajouté, et reprenant un message porté ces derniers jours par la police fédérale et le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby. Un an et demi après l'incident du ballon venu de Chine abattu par les États-Unis et dont Pékin a assuré qu'il ne servait pas à des activités d'espionnage, certains élus ont agité la menace d'un État étranger comme la Russie ou encore la Chine. Le président élu des États-Unis, Donald Trump, qui doit entrer en fonction le 20 janvier, a mis en doute vendredi soir la sincérité du gouvernement et suggéré d'abattre ses drones.
C'est tout pour les nouvelles. Vous suivez le journal sur VOA Afrique et voaafrique.com. Les élus américains sont dans la course contre la montre pour éviter un nouveau shutdown. Le Tchad propose sa candidature à la présidence de la BAD, tandis que des prévisions économiques optimistes annoncent une croissance soutenue pour plusieurs pays africains en 2025. C'est la Minute Éco que nous propose Eric Manirakiza.
Le Congrès américain s'efforce de trouver un accord budgétaire qui permettrait d'éviter la paralysie de l'État fédéral à une semaine de la date limite et alors que les fêtes de fin d'année approchent. Les élus ont jusqu'au 20 décembre pour adopter une mesure de financement, même temporaire, des services publics fédéraux, sans quoi les États-Unis connaîtraient un nouveau shutdown. Le Tchad a déposé officiellement la candidature de Abbas Mahamat Toudi à la présidence de l'ABAD. La candidature du Tchad a été reçue par le secrétaire général de l'ABAD. M. Toudi a occupé le poste de gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, BAC, mettant en œuvre des réformes majeures pour renforcer la stabilité financière de la sous-région. Il a également été ministre des Finances du Tchad, directeur de cabinet du président tchadien. The Economist Intelligence Unit estime dans son rapport que 44 pays africains sur un total de 54 devraient réaliser l'année prochaine des taux de croissance supérieurs à ceux enregistrés en 2024. C'est grâce notamment à l'amélioration des conditions financières, à la baisse de l'inflation, à la hausse des investissements étrangers et aux bonnes performances attendues des secteurs des services de l'industrie.
Suivez à présent les grands moments sportifs qui ont marqué le week-end en basketball avec la Ligue africaine féminine, tandis qu'en football, les yeux sont tournés vers les CAF Awards avec des joueurs et clubs qui s'affrontent pour décrocher les distinctions les plus prestigieuses. Retrouvons tout de suite Élisée Oupatin. Bonjour Élisée, bonjour à tous.
Bonjour Nanita et bonjour à tous.
Du basketball à la une, la Ligue africaine féminine a rendu son verdict hier, dimanche, à Dakar, au Sénégal.
Oui, et ce sont les Mozambicaines de Ferroviaro qui ont été sacrées après avoir dominé en finale les Égyptiennes d'Al Ahly du Caire. Score 81-72. Le club de Maputo, invaincu tout au long du tournoi, remporte à nouveau le trophée après 2018 et 2019. À noter que les Rwandaises de l'APR ont pris la troisième place suite à leur succès 96-94 en match de classement face au club hôte, l'ASC Ville de Dakar.
Une autre distinction, mais en football, est attendue ce lundi à Marrakech.
Où seront remis les CAF Awards, le prix des meilleurs joueurs et clubs du continent. Chez les messieurs, ils sont cinq prétendants. Le Guinéen Seyrou Guirassy, le Marocain Achraf Hakimi, l'Ivoirien Simon Adengra, le Nigérien Ademola Lookman et le gardien de but sud-africain Rowan Williams pour succéder à Victor Osimhen. Au niveau des dames, les trois finalistes pour succéder à la Nigériane Asisat Oshoala sont la Marocaine Sana Misoudi, la Nigériane Chiamaka Nandosier et la Zambienne Barbara Banda. Une soirée qui récompensera aussi le meilleur jeune ainsi que le meilleur club de l'année.
Élisée, la catégorie du meilleur club africain dont le favori semble être Al Ahly du Caire.
Exactement, Nanit. Le géant du Caire disputait à Doha les demi-finales de la Coupe intercontinentale. Défaite au tir au but face aux Mexicains de Pachuca qui rencontreront le Real Madrid en finale mercredi. Al Ahly qui jouera la petite finale a vu son match de Ligue des Champions de la CAF contre les Algériens du Sierra Belouizdad reporté. Dans ce groupe C, le Stade Malien et Orlando Pirates ont fait jeu égal un but partout.
Une troisième journée qui a vu les Soudanais d'Al Hilal se détacher en tête de groupe A.
Oui, le club de Omdurman, vainqueur en déplacement 1-0 chez le MC Alger, poursuit son sans faute avec 9 points en 3 matchs. Un parcours parfait dans la poule D. L'Espérance de Tunis compte 7 points après avoir battu 2-0 les Égyptiens de Pyramide. Ils font un peu mieux que les Marocains d'Asfar et les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns en tête du groupe B avec 5 points chacun. Les militaires contraints au nul 1-1 en RDC par Manema Union et le club de Pretoria vainqueur 1-0 du Raja de Casablanca. Blanca.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani, toujours en votre compagnie. De la destitution de Barthélémy Diaz au Sénégal à la montée des tensions autour de la présidentielle en Côte d'Ivoire, en passant par la colère des étudiants gabonais et le bras de fer entre le gouvernement et les ONG au Cameroun, explorons maintenant les reportages qui structurent nos dossiers du jour. Le maire de Dakar, rattrapé par son passé, condamné pour homicide remontant à 2011, Barthélémy Diaz a perdu en une semaine son mandat de député et son poste de maire de la capitale sénégalaise, ce que ses partisans considèrent comme des décisions politiques. La correspondance de Wani Johnson Sambou.
Une semaine après avoir été déchu de son poste de député, Barthélémy Diaz perd son fauteuil de maire de Dakar. Le socialiste a été déclaré vendredi démissionnaire avec effet immédiat de son mandat de conseil municipal par un arrêté du préfet de Dakar. Il crie à l'injustice.
L'injustice ne prospérera pas dans ce pays. Le Sénégal est un état de droit, c'est une république. Je rappelle une fois de plus que je suis le maire de Dakar. Et personne ne peut me démettre de cette fonction tant que mon droit de recours n'est pas encore exercé.
Une mairie de laquelle Barthélémy Diaz a été expulsé manu militari vendredi par la police alors qu'il s'apprêtait à y tenir un point de presse. Une procédure dénoncée par ses partisans.
Ils ont qu'un seul objectif, c'est d'arrêter M. le maire Barthélémy Diaz. Personne ne sait ce qui se passe actuellement au Sénégal et nous ne l'accepterons pas.
Le maire de Dakar, Barthélémy Toye Diaz, dispose de 10 jours pour faire un recours à la cour d'appel. Et même s'il devrait être démis, il y a un minimum d'élégance qu'il faut respecter. Pourquoi brutaliser les uns et les autres? Pourquoi en arriver là?
Barthélémy Diaz est rattrapé par sa condamnation pour homicide volontaire remontant à 2011. Enclenchée par un partisan du pouvoir, la procédure de destitution est toutefois vue comme un règlement de compte politique par le maire qui indexe le Premier ministre Ousmane Sonko. Ce que rejette l'analyste politique Bakary Domingo Mané.
Ça n'a absolument rien à voir avec la question politique. Le droit est anti, moi je ne comprends pas vraiment cette polémique qui n'est qu'une polémique vraiment partisane et quelque part où on est en train de demander aux nouveaux tenants du pouvoir de ne pas respecter la loi.
Mais le maire de Dakar et ses proches comptent se battre contre ce qu'ils qualifient de forfaiture. Barthélémy Diaz annonce déjà un recours pour retrouver son fauteuil de maire. Wahani Johnson Sambou, Dakar, pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
À moins d'un an de la présidentielle en Côte d'Ivoire, la course à la magistrature suprême se fait déjà ressentir. Certaines personnalités politiques ont déjà déclaré leur candidature pendant que d'autres attendent toujours avant de se prononcer. Une actualité que les Ivoiriens suivent de très près. Le reportage de notre correspondant à Abidjan, Ange Nomenyo.
Simone Gbagbo, Laurent Gbagbo, Jean-Louis Billon et Affine Guesson sont les quatre personnalités politiques qui ont déjà déclaré leur candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Tous membres de l'opposition, ils sont quasi certains de pouvoir prendre part au scrutin, sauf Laurent Gbagbo qui n'a toujours pas son nom sur la liste électorale. Justin Katinan, président du Conseil stratégique et politique du PPACI.
Dans une intervention à l'Assemblée nationale, le président Kuibert, président de la CEI, a dit ceci. Selon l'article 3 du Code électoral, le président Laurent Gbagbo ne peut pas être inscrit parce qu'il est déchu de ses droits civiques et politiques. Or, nous lui disons qu'il n'y a jamais eu de prononcé de déchéance des droits civiques et politiques du président Laurent Gbagbo. Et que cette déchéance, ce sont des sanctions qu'on appelle ça les peines complémentaires, elles ne se déduisent pas de toutes les condamnations, parce que ce n'est pas toutes les condamnations qui donnent lieu à ça.
La candidature de Jean-Louis Billon crée une tension au sein du PDCI-RDA. Le parti présidé par Tidiane Thiam n'a pas encore désigné son candidat quand Jean-Louis Billon a décidé de se prononcer. Une guéguerre qui risque de fragiliser davantage le parti. Jean-Louis Billon, candidat à l'élection présidentielle de 2025.
Tidiane, pour qui j'ai beaucoup de respect, est parti en 2000. Il revient en Côte d'Ivoire à partir de 2023. En 2022, il fait une visite, il repart, il revient en 2023. 23 ans. Quand il partait en Côte d'Ivoire, Il y avait 18 millions d'habitants. Il y en aura 30, là, dans quelques mois. C'est pas la même Côte d'Ivoire. Quand il partait, Yopougon avait 700 000 habitants, il y en a 2 millions aujourd'hui. Il n'a pas scolarisé d'enfants en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas parler aux Ivoiriens d'éducation nationale.
Tidiane Thiam, président du PDCI RDA.
Tout le monde sait que j'étais absent de Côte d'Ivoire. Les 96,5% des électeurs du PDCI qui ont voté pour moi, il y a beaucoup qui savent que j'étais absent de Côte d'Ivoire. Vous savez, moi, je fais confiance à l'intelligence du peuple ivoirien. J'ai dit à Soubry, quand j'ai parlé de l'IDH, qui est aujourd'hui compris par tout le monde, le peuple a une grande intelligence. Et ce qui compte pour eux, c'est de savoir qui peut les aider. Ce n'est pas un concours de présence. On n'est pas à l'école. Ce n'est pas un concours de présence. C'est un concours de résultats.
Le parti au pouvoir RHDP n'a pour l'instant pas encore présenté son candidat. Néanmoins, ils sont nombreux au sein du parti à soutenir la candidature du président actuel Alassane Ouattara, même si ce dernier ne s'est pas encore prononcé. Kobenan Adjumani, porte-parole du RHDP.
Nous, on a un candidat qui est effectif. C'est le président Alassane Ouattara. Les gens en ont peur parce que c'est le candidat redoutable. Pour l'opposition qui ne le sait pas encore, c'est bien le président Alassane Ouattara.
L'ex-ministre de la Jeunesse Charles Blégoudé a fait parler de lui aussi la semaine dernière. Le président du COGEP a demandé une amnistie pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Il reste toujours sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison prononcée par la justice ivoirienne. Ange Nomeignon pour VOA Afrique, Abidjan.
La voix de l'Amérique, Bongi 101.7 FM.
Au Gabon, environ 6 000 étudiants des universités publiques, parapubliques et grandes écoles observent une grève illimitée depuis plus d'une semaine. Ils réclament la réouverture de la plateforme e-bourse créée par l'ANBG pour enregistrer les dossiers des candidats éligibles aux allocations d'études. Ils en appellent à la diligence des plus hautes autorités du pays. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianzé.
Sous les fenêtres de l'Agence nationale des bourses à Libreville, la colère des étudiants se fait entendre. Myrna est en deuxième année de médecine, sans allocation d'études. Elle est donc dans l'impasse.
Cela fait déjà 2 ans que je ne perçois pas ma bourse. Je suis venue au mois de septembre. On m'a fait comprendre que non, je ne peux plus faire la demande de bourse et que mon compte est bloqué. Et là, je n'arrive pas. Je suis étudiante, les parents sont en province, je n'arrive pas à m'en sortir. Je ne sais pas si les autorités peuvent nous aider dans notre situation. Les comptes sont fermés, on n'arrive pas à s'en sortir.
C'est la même situation au Centre des technologies de l'information et de la communication d'Ankok. C'était ici où est inscrit Jonathan.
Nous qui vivons à l'internat, on paye 24 000. Ça fait 3 mois en dehors dans le noir. On paye 24 000 pourquoi ? Les ateliers d'abord, ce n'est pas ça. On ne pratique pas. On veut l'argent. On a des besoins aussi. On demande encore en janvier. On a encore laissé faire inscrire, payer 90 000 en janvier. On n'a pas l'argent, on paye ça comment ?
Les grévistes expliquent leur calvaire par le déficit d'informations sur le processus d'obtention des allocations d'études via la plateforme e-bourse. Grâce Mujika, étudiante en informatique.
En tant qu'informaticien, nous avons besoin des ordinateurs. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas d'ordinateur. Nous n'avons pas de matière d'œuvre parce qu'il n'y a pas de bourse. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où on prône l'entrepreneuriat. La formation professionnelle, c'est pour former les entrepreneurs de demain. Aujourd'hui, on ne peut pas avancer dans notre formation si on n'a pas la matière d'œuvre.
Une grogne étudiante qui met en difficulté aussi bien les bacheliers de la session 2024-2025, que les retardataires régulièrement inscrits dans des écoles supérieures du Gabon. Prince Aldo est en licence 1 à l'Institut sous-régional multisectoriel des technologies appliquées, de planification et d'évaluation de projets, en abrégé ISTA.
Ils ont dit qu'au mois de décembre, on devait réouvrir les comptes. Et on arrive une fois baladé. Pourquoi cela ? Nous sommes plus de 6 000 étudiants, on dit bien 6 000 au territoire gabonais, qui n'ont pas fait la demande de bourse. Parmi nous, il y a d'autres qui reviennent de province. Vivre en capitale, c'est compliqué.
Pour le moment, la direction générale de l'Agence nationale des bourses du Gabon n'a pas souhaité s'exprimer sur le non-paiement des bourses qui compromet ainsi les chances de réussite des milliers d'étudiants gabonais. Ismaël Obianzé pour VOA Afrique, Libreville.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Cameroun, les organisations de la société civile et le gouvernement sont à couteau tiré sur le fonctionnement et le financement des ONG et associations. 5 organisations non gouvernementales menant des activités sur les droits humains et l'humanitaire
en zone anglophone ont été suspendues. Elles sont accusées de recevoir des financements illicites et de nature à financer le terrorisme. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jultap.
Le gouvernement cite des rapports de l'Agence nationale d'investigation financière datant de 2021 et de cette année qui indiquent que les 5 ONG suspendues au Cameroun ont reçu des financements illicites et exorbitants en contradiction avec le profit de leurs activités et sans traçabilité sur l'utilisation des dits financements. Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale.
Nous ouvrons l'œil sur les opérations des ONG. Parce qu'il a été établi partout dans le monde que la meilleure façon de blanchir l'argent, c'est de collaborer avec les ONG et les associations. Donc le Cameroun ne doit pas rester en train. Donc dès lors que nous avons une information qui est inquiétante, nous devons immédiatement monter au créneau pour dire nous menons des investigations. Et la meilleure façon de mener des investigations, c'est d'abord de suspendre et de geler les activités de ces ONG, de ces associations, ce qui nous permet maintenant de rentrer dans le fond des choses, on met des investigations.
D'après le ministre Paul Atanganji, les ONG camerounaises ont reçu 16 milliards de francs CFA de l'étranger en un temps record, mais ont consenti des dépenses et investissements de moins de 400 millions de francs CFA. Pour Cyril Roland Béchon, directrice exécutive de Nouveaux Droits de l'Homme, une organisation de la société civile, le gouvernement semble faire dans l'amalgame.
Nous recevons, dans le cadre de la promotion des droits humains, ce qu'on appelle subvention. Ce sont des fonds contrôlés par les pouvoirs publics. Par contre, c'est lorsqu'il s'agit des dons ou des legs qu'on peut questionner la provenance. La question du financement illicite, ce n'est pas une question propre au Cameroun, c'est une question mondiale. Aucun État, aucun organisme ne veut être associé au financement du terrorisme. Je suis un peu mal à l'aise parce qu'au Cameroun, on a l'impression que subitement, même une banque va accepter de faire transiter des fonds illégaux par sa banque. Ce n'est pas possible.
Il y a 4 ans, les autorités camerounaises avaient déjà brandi les menaces de suspension des activités de certaines ONG qui auraient reçu 5 milliards de francs CFA pour produire de faux rapports sur l'armée et le Cameroun. Philippe Nanga, coordonnateur de l'ONG Un Monde, Un Avenir.
Nous subissons la provocation depuis et donc il va falloir qu'on utilise l'instant de survie pour nous défendre. Parce que dans une république, les citoyens disposent, n'est-ce pas, de la souveraineté. Nous n'allons pas laisser qu'un individu, soit-il ministre, décide de museler tout un acteur qu'on appelle la société civile.
Dans une déclaration qui a déjà obtenu une centaine de signatures, la société civile a dénoncé la suspension des ONG. Hilaire Kamga, porte-parole de la plateforme de la société civile pour la démocratie.
Nous lançons un appel global au gouvernement camerounais de savoir raison garder. Nous demandons la levée de la suspension des organisations des droits de l'homme qui ont été suspendues pour des raisons que nous jugeons infondées. Et même fantaisiste.
Le gouvernement a fixé le délai du 31 janvier prochain pour que toutes les ONG se conforment à la loi. Elles doivent notamment adresser un rapport sur toutes leurs activités. Emmanuel Jumta pour VOA Afrique, Yaoundé.
C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Nanit Kalani avec à la mise en onde Georges Léonard Sagno et Kelvin Fowler à la technique. Pour de nouvelles analyses et des informations cruciales sur les événements qui dominent l'actualité, n'hésitez pas à visiter notre site internet voaafrique.com et à nous suivre sur nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. Merci pour votre attention. Au revoir. I'm gonna get a little bit of a chance. Vem, vem, vem.